Monsieur Truchon, bonsoir.
Bonsoir.
Lors de notre émission de la semaine dernière, nous avons commencé à aborder le fonctionnement de la béatitude des cœurs purs, c'est-à-dire comment la béatitude peut s'actualiser pour nous ici maintenant. Je vois ici que vous avez identifié quelques 8 points qui sont à la base de ce fonctionnement. Et c'est la confiance qu'on retrouve en tête de liste. Est-ce que vous voyez de quelle liste je parle?
Oui, je l'ai devant moi. J'aimerais bien la continuer. Mais, je sais pas, peut-être qu'on pourrait essayer de remettre de l'ordre puis de compléter un peu ce qui était commencé la semaine passée.
Sûrement.
Et c'était plutôt un débroussaillage oui, qu'on faisait. Alors j'aimerais reprendre plus ça avec ordre un petit peu. Puis on continuera évidemment les fruits de cette béatitude et son fonctionnement. Alors d'abord, je disais que cette béatitude, c'est les cœurs. Et j'aimerais là qu'on systématiquement, qu'on définisse un peu ce qu'est le cœur selon la Bible. Alors, j'avais dit que le cœur, selon la Bible, d'abord, c'est l'origine du moi, du je. C'est-à-dire, c'était l'origine de ce qui fait que je suis moi. Et on sait que le fait que je suis moi, c'est le dessein de Dieu. Dieu a le dessein de me construire, de me réaliser. Et c'est ce qu'est ce moi, ce
plein de Dieu. Quand vous dites le moi, c'est aussi la personnalité, le centre de la personnalité.
Alors, c'est la personne. On peut appeler ça la personne. C'est le moi. C'est ce qui fait que je suis unique, que j'existe, qu'un autre n'existe pas à ma place, que je peux pas exister à la place d'un autre.
C'est mon individualité.
Ensuite, le cœur, selon la Bible, c'est l'origine de ma liberté, c'est-à-dire ce qui va naître en moi pour me faire décider l'orientation que je vais prendre, la direction que je vais prendre. Ensuite, le cœur, selon la Bible, c'est l'origine de mon expression, l'origine donc de ce que je puis dire vraiment par moi-même. Et ensuite, l'origine de mes sentiments, c'est-à-dire de ce que je ressens. C'est aussi l'origine du lieu de communion que j'ai avec les personnes. C'est l'origine aussi de mes expressions et même de mon corps, parce que selon la Bible, le corps est surtout un moyen de communication. Et finalement, c'est même une relation avec tout l'univers. Alors, si on faisait des recoupements avec le bouddhisme, on pourrait penser un peu au chakra, là, mais c'est pas ça. Il y a peut-être une petite parenté, là, mais c'est beaucoup plus personnalisant et personnalisé. Et c'est toujours en fonction du moi. Maintenant, pur. Pur veut dire authentique, c'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est que je devienne moi-même. Même si je regarde un autre et que ça m'aide à devenir moi-même, il reste qu'à un moment donné, la différence avec moi se fait et je sens que c'est moi-même et que ce n'est pas un autre. Évidemment, là, par association et par imitation, au début, on imite un autre, mais il faudra que ça soit temporaire. Ensuite, donc, pur veut dire être moi-même, Raymond. Bon, un autre, c'est un autre et c'est comme ça.
Alors, chacun sa pureté.
Chacun sa pureté, chacun son être. Et cette béatitude consiste à être heureux d'être soi-même, puisque être soi-même, c'est déjà une communion avec Dieu. Et la réalisation de mon moi, ce sera la réalisation d'un aspect du visage de Dieu que j'ai à réaliser. Donc, chacun est une image de Dieu. Ensuite, ils verront Dieu. C'est que, évidemment, étant une image de Dieu, plus je deviens moi-même, plus je suis en communication avec ma source, plus je peux connaître la source dont je suis, parce qu'il y a une relation de référence et d'association et aussi d'image entre la source et son œuvre. Maintenant, comment devenir moi-même? Ça, on entre dans le fonctionnement. Je deviens moi-même en me réalisant dans mes puissances. C'est-à-dire que je dois réaliser la direction même que mes puissances ont à prendre et à s'unir en fonction de ce moi qui se réalise. Ça, on peut appeler ça l'opération vérité. Donc, dire ce que je pense, penser ce que je dis.
Qu'est-ce que c'est les puissances, mes puissances, mon potentiel?
Mes puissances, c'est toutes les facultés que j'ai de marcher, de sentir, de connaître, d'aimer, d'être connu, d'être aimé, d'agir. En fait, on peut le résumer dans être co-créateur, co-rédempteur et le voyage de noces, c'est-à-dire l'Esprit-Saint.
D'accord. Alors, donc, l'opération vérité.
Alors, l'opération vérité, ça consiste justement à retrouver mon unité ou à faire encore d'une façon supérieure mon unité en disant ce que je pense, en pensant ce que je dis, en sentant ce que je dis, en sentant ce que je pense, en voulant ce que je sens, en voulant ce que je dis, en voulant ce que je sens, en communiquant finalement les aspects de moi-même. Et ça, je le fais avec moi-même et je le fais évidemment surtout avec un autre. Parce que là, on peut tomber dans l'imaginaire si on n'a pas une autre personne qui est un autre moi aussi.
Avec qui, à qui il a communiqué?
À qui il a communiqué et aussi à qui il a recevoir. Parce que cette communication, je la donne, mais en même temps, je la reçois. Autrement dit, on se fabrique en se connaissant, mais on se connaît en étant connu. Alors, c'est pour ça que saint Paul dit que le ciel consistera à connaître Dieu en autant que lui-même me connaît, c'est-à-dire en le connaissant comme étant connu par lui. D'ailleurs, à un moment donné, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, on pourra approfondir ça, ce qui est extrêmement intéressant comme dynamique. Donc, ce fonctionnement de cette béatitude, au fond, comment se fait-il? Au fond, cette béatitude est constituée de trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est de découvrir que je suis un dessein de Dieu, un projet extraordinaire de Dieu, que Dieu m'a rêvé de toute éternité, et qu'un jour, Dieu, dans son désir, a réalisé ce désir en me faisant venir au monde. Et là, en venant au monde, je commence déjà à devenir ce que Dieu pensait de moi, et ce qu'il désire de moi, et ce qu'il rêve de moi, et ce qu'il veut un jour réaliser avec moi, c'est-à-dire en fait un voyage en os.
En venant au monde, je suis déjà en gestation pour autre chose.
De
parce
moi-même.
Que j'ai été en gestation dans le sein de ma mère.
Je suis venu au monde en germe, mais là, j'ai à me construire par moi-même. C'est comme si je devenais enfant de moi-même. C'est même là, probablement, la raison de la chasteté. C'est-à-dire, avant d'engendrer un autre être, il faut quand même que je m'engendre moi-même. Alors, m'engendrer moi-même, c'est au fond me servir de toutes mes puissances pour me construire moi-même, dans ma liberté, dans mes choix, dans mes décisions. Alors, tout ça va se faire par la confiance, qui va être le premier mécanisme de ce fonctionnement, c'est de trouver une confiance. Et cette confiance s'enracine dans un être qui m'aime. Or, justement, cette béatitude, c'est de réaliser chaque jour, toujours plus, que Dieu m'aime, je dirais quasiment comme un fou, là, il m'aime d'une façon terrible. Et il est prêt à tout pour moi, et là, on le verra dans la mort de Jésus, qu'il est prêt jusqu'à ça. Alors, le premier élément qui constitue la nature de cette béatitude, c'est d'abord de découvrir que je suis un projet de Dieu. D'où vont arriver là en moi toutes des libérations de puissance qu'on verra tantôt. Deuxième élément, c'est que je décide de construire ce projet de Dieu qui est moi-même. Je le décide de le construire. Alors, je prends la décision de chercher à construire ce projet et d'y collaborer.
C'est l'élément qui suit la confiance.
C'est l'élément qui suit la confiance qui, elle, vient de la découverte que Dieu m'aime et que je suis un projet de Dieu. Troisième élément constitutif, c'est le discernement. C'est que je vais passer mon temps à sentir à moi, à me sentir, pour trouver si la direction que je prends est bonne, si je suis dans la bonne direction. C'est le discernement. C'est ce qui va permettre, d'ailleurs, toutes les corrections de tir, ou si vous voulez, d'orientation. Alors, ce qui veut dire que à ce moment-là, je me découvre comme un projet de Dieu qui est mon créateur et qui est mon père, ou ma mère, si vous voulez, ma source continuelle. À chaque seconde, je suis un acte de Dieu. À chaque seconde, si je suis là, c'est parce que Dieu agit. Et deuxièmement, je découvre que ce Dieu-là, pour moi, est rédempteur. C'est-à-dire que non seulement il me crée, mais il est prêt à réparer tous les accidents qui peuvent m'arriver et que je peux même produire moi-même. Alors, c'est mon rédempteur. Et là, on a le Christ en croix qui démontre la profondeur et la décision de Dieu dans cet amour. C'est sans limite. Et le troisième élément, élément constitutif, ou si vous voulez, la troisième personne de la Trinité que constitue cette béatitude, c'est l'Esprit-Saint, c'est en vue d'un voyage de noces éternelles extraordinaire, d'une plénitude inouïe. Donc, ces trois éléments-là indiquent déjà la nature de cette béatitude pour devenir moi-même, c'est-à-dire ne pas être un autre, c'est-à-dire de me réussir, de me réaliser. Et c'est évident qu'en me réalisant, je deviens heureux parce que j'atteins ce pourquoi j'étais fait comme un poisson dans l'eau, mais là encore, c'est plus que ça parce que c'est une vie avec Dieu.
C'était déjà l'objectif de la béatitude, quoi.
C'était l'objectif de la béatitude. Maintenant, là, nous arrivons aux fruits.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous abordons, nous poursuivons ce soir l'étude de la béatitude des cœurs purs. Et nous parlons de la question du fonctionnement de la béatitude. Nous avons parlé de la confiance et je pense qu'on peut y revenir pour couvrir les 8 points que vous avez retenus sur ce sujet-là.
Bon, les 8 puissances, ou si vous voulez, les 8 aspects de ce fonctionnement de cette béatitude sont évidemment là. Les fruits, comme on peut dire, puis il y aura d'autres fruits tantôt, mais c'est des fruits quand même de la découverte que je suis un projet de Dieu. C'est que tout va découvrir, va devenir le fruit de la foi. Alors, cette foi qui est que je me découvre comme un projet de Dieu, que Dieu m'aime à folie, et que c'est tout un plan de réalisation éternelle, de bonheur inouï qu'il veut construire, c'est la foi, c'est ça, c'est de me recevoir comme ça. Et ça, c'est la foi de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, encore plus grande, cette foi, parce que je suis déjà accompli dans le Christ lui-même. Alors, dans le Christ lui-même, moi, là, je suis déjà accompli. Et la foi, c'est de me recevoir comme ça du Christ, chaque jour, à chaque seconde, en tout et partout, comme déjà accompli dans le Christ, qui est mon rédempteur, qui a réparé tout ce qu'il faut pour que ce projet-là se réalise, projet qui était un projet du Créateur. Donc, projet d'un Créateur, repris par le rédempteur, et accompli complètement dans un voyage de noces. Alors, mais là, de cette confiance que je nourris chaque jour par la méditation, la prière, l'étude et toutes mes actions dans toutes mes relations, alors si j'arrive à me voir en Dieu en toutes choses, et si j'arrive à voir Dieu avec moi en toutes choses, ben là, la béatitude est accomplie. Évidemment, elle est dans un processus de vie terrestre, là, mais déjà, elle est progressive chaque jour. Alors, au fond, ce projet-là de Dieu, c'est que je suis comme enceinte de Dieu en moi, ou si vous voulez, Dieu va se réaliser en moi dans son image que je suis, et cette image-là va être une communion parfaite avec lui, qui est commencé déjà dans cette vie terrestre. Alors, cette confiance-là, c'est tellement le point originel et fondamental de la béatitude et d'ailleurs de tout le processus chrétien, que c'est la base même de tout. Et Saint Jean dira qu'il n'y a qu'un seul péché, c'est de manquer de foi au Christ, c'est-à-dire de manquer de foi dans ce que je suis, comme étant une merveille que Dieu est en train de vouloir accomplir et qu'il est capable d'accomplir.
Quand tu dis que le plus grand péché, c'est l'absence de foi en Dieu, c'est également l'absence de foi en soi.
Comme fruit, parce que si, quand j'ai confiance en Dieu, c'est j'ai confiance qu'il me réalise. Alors, si j'ai confiance en Dieu qu'il va me réaliser, je découvre un amour pour moi qui est possible et une espérance extraordinaire de me réaliser. Et cette espérance-là est tellement certaine que déjà dans le Christ, dans le Nouveau Testament, je suis accompli.
Oui, d'accord.
Ce qui est d'ailleurs la joie de l'Eucharistie.
D'accord.
Parce que quand je communie à l'Eucharistie, je vais communier à moi déjà accompli dans le Christ, ainsi que tous nous autres, il va s'en dire. Là.
D'accord.
Bon. Alors, le deuxième mécanisme maintenant, c'est le desserrement des mécanismes de défense. C'est que devant cette foi en moi, à cause de lui, et de cette foi en lui en moi, ce qui est encore beaucoup plus juste, je suis moins nerveux, je suis moins peureux, je peux commencer à dire ce que je ressens.
On peut s'abandonner.
On peut s'abandonner parce que, la béatitude première qui était les pauvres va grandir. Et elle va grandir d'une façon personnalisée. C'est que je peux exprimer mes sentiments, je peux exprimer mes erreurs, je peux m'exprimer dans ma négativité. Je vais être accueilli positivement. Alors, le Christ, recevant tout mon négatif, est capable d'en faire un positif. Et c'est la croix chrétienne, c'est-à-dire la réussite. Alors, c'est tout le début d'une thérapie fantastique qui commence avec ça. Évidemment, on voudrait peut-être plutôt parler d'agapé-thérapie, mais c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Faisant des aveux de plus en plus clairs sur moi-même, sans toujours être là à m'expliquer, à me justifier, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause d'un tel. Bon, là, j'arrête ça, cette affaire-là. À place de dire, bon, c'est une telle, quand je suis pas avec elle, je suis correct, quand elle est là, je travaille. Bon, on arrête ça, là. Là, je dis ce que je ressens, puis je mets à faute sur personne. C'est là que la thérapie commence.
Et je reconnais mes torts également.
Je reconnais mes torts, mais je perds pas à carte avec un tort. Mais même si un autre me dit que je suis laid, là, ben, au fond, c'est pas vrai, je suis une merveille de Dieu. Alors, je m'énerve pas, je regarde pareil ce qu'il dit pour voir si ça a du bon sens. parce que peut-être que j'ai une image à ce moment-là qui est pas terrible, qui peut s'améliorer. Mais le fond est extraordinaire. Le fond, c'est une pierre précieuse que je suis. Donc, j'essaye pas de me justifier. Alors, les communications, qui est le quatrième processus, s'installe une communication plus facile parce que j'arrête de dire ben non c'est pas ça, je dis vraiment ce que je suis et se produit en moi une cinquième puissance, une puissance d'unité. Alors là j'arrête d'être divisé tout le temps, au contraire je m'unifie parce que je reconnais ce qui est d'un côté, ce qui est de l'autre et je réoriente mes puissances vers leur vraie direction et c'est le sixième mécanisme de libération. Et le septième, c'est la clarté. C'est je commence à me connaître. Je commence à décrire mes fonctionnements et à voir comment je fonctionne. Et à voir surtout qu'au fond, je peux être un être extraordinaire. Et finalement, je découvre le plan de Dieu dans mon histoire. Et là, ben, c'est le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. C'est que là, je me dis, hey, je suis un laboratoire des merveilles de Dieu en moi. Et là, je commence à connaître l'homme. En général, l'homme en particulier, parce que je me connais. Et plus on descend profondément en soi-même, plus on est capable d'une communication universelle, c'est-à-dire d'une communication avec chaque personne. Ensuite arrivent des fruits.
Avant de parler de la question des fruits, j'aurais une toute petite question au sujet de l'opération vérité. Oui. Vous en parlez beaucoup et je pense que c'est important. Vous affirmez, entre autres, que sa vérité, la vérité de soi, elle doit être belle. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que c'est si difficile de la percevoir comme vraiment belle, sa vérité à soi?
Parce que on la voit déformée, parce qu'il y a eu des manques dans nos expériences de connaissance de nous et des autres, et il y a eu des jugements, il y a eu des préjugés. Les préjugés sont les clous avec lesquels on a crucifié le Christ. Alors, finalement, on s'en prend toujours aux autres, on a toujours de travers. Finalement, on devient quasiment comme une petite erreur qui se promène le long du mur.
Et on se crucifie soi-même dans le processus?
Inévitablement, puis on arrive même peut-être à l'automutilation parce qu'on a une image de soi qui est dégueulasse. Et encore une fois, j'ai déjà vu quelqu'un qui se frappait le visage devant le miroir parce qu'elle se trouvait pas belle. Je trouvais ça terrible. Alors, c'est tout à refaire, ça. Au fond, les béatitudes nous aident à refaire l'image de moi, l'image des autres, l'image de notre histoire, l'image de l'histoire du monde, l'image de la vie, l'image de la femme, l'image du couple, l'image des animaux, l'image de la terre, l'image de Dieu.
Chers auditeurs, ici Aline Lesage. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Je suis en compagnie de M. Raymond Truchon. Nous échangeons ce soir encore sur les béatitudes. Ce soir, les cœurs purs. Alors, si j'ai bien compris, après avoir expliqué les termes de et la nature de la béatitude, après avoir expliqué le fonctionnement de la béatitude, nous pouvons passer aux fruits qui en découlent. Pourquoi est-ce qu'on parle de fruits pour cette béatitude en particulier? Monsieur Truchon, il me semble que vous n'avez pas abordé ce point avec les autres jusqu'ici.
Peut-être que je l'ai abordé moins clairement, je ne sais pas, mais c'est certain que les béatitudes ont chacune des fruits. Et ces fruits-là, ce sont des fruits de l'esprit, mais ce sont des fruits humains, ce sont des fruits divins. Au fond, on est comme un arbre, on est comme une fleur, on est un plant qui est planté, puis qui va produire quelque chose d'extraordinaire, et ça, on appelle ça des fruits. On peut appeler ça des effets, on peut appeler ça n'importe comment, mais ça produit des choses merveilleuses. Alors, si on en vient peut-être à des fruits, justement, de la béatitude des cœurs purs, un fruit extraordinaire, c'est la transparence. Qu'est-ce que c'est que la transparence? C'est une vitre propre.
Est-ce que c'est ce qui découle de l'opération Vérité?
Ben oui, nécessairement. C'est que, vous savez, vous voyez un enfant, c'est comme si vous voyez comme un livre ouvert. Vous voyez un enfant, puis vous savez ce qui se passe dedans. Ça, c'est, il, même quand il ment, là, tu vois grouiller les oreilles, le nez, tu sais qu'il... tu lis dedans. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se cacher. Hein. Il n'est pas capable de se cacher.
Il est un livre ouvert.
Ah, il est un livre ouvert. Et au fond, justement, l'homme, c'est ça sa destinée aussi. C'est de devenir non seulement un livre, mais un livre ouvert. Alors, le déroulement du livre, c'est le déroulement de la parole de Dieu dans notre cœur. C'est qu'au fond, nous sommes, nous, un projet de Dieu. Chaque homme, là, c'est une parole de Dieu qui est à réaliser et qui reflète Dieu et un aspect du Christ et une qualité extraordinaire. Alors, mais ça, c'est impossible sans transparence. Et qu'est-ce que c'est que la transparence? C'est cette capacité de laisser voir ce qu'on signifie. Parce qu'au fond, la personne, c'est un sens. La personne elle-même, c'est une signification. D'ailleurs, une personne qui est insignifiante, ben, ça vient de s'éteindre. Si vous voulez, on ne trouve plus d'intérêt là-dedans. Elle ne dit rien. Elle ne dit rien, elle ne montre rien, elle ne fait rien connaître, on ne sait rien. Alors que l'homme est fait pour connaître, puis pour aimer ce qu'il connaît. Mais au fond, nous sommes faits pour connaître qui? Dieu. Mais pour ça, il faut connaître l'homme, parce que c'est par l'homme que Dieu se révèle. Alors, c'est
la connaissance de Dieu doit nécessairement passer par celle des hommes.
Absolument, c'est un, comment je dirais, c'est incontournable. Il y a un autre mot qu'on dit d'habitude, là, en tout cas, c'est incontournable.
Bon.
On ne peut pas passer à côté. Connaître soi, c'est connaître Dieu, c'est connaître soi. Et c'est certain que l'expérience de Dieu, c'est ce qui nous fait atteindre à la plus profonde connaissance de l'homme. Et cette connaissance-là, on a vu que d'après les Béatitudes, c'était la miséricorde. Et qu'est-ce que c'est que la miséricorde? C'est cet amour inconditionnel. Et c'est quoi cet amour inconditionnel de Dieu? C'est le vouloir nous construire alors même que des fois, nous sommes tout de manche en morceaux, tout de travers. Même des fois, pas regardable, pas écoutable. Mais là, la vitre est sale. Quand ta vitre est sale, bon, on ne signifie plus rien. Alors, on n'a plus de relation, on n'a plus de sens non plus. Alors, la transparence, c'est cette joie d'être signifiant et d'être signifié. Et de, qu'un autre nous lit, il nous connaît, il nous reconnaît, et qu'il trouve un sens avec nous, puis qu'il trouve même son sens à lui avec nous. Autrement dit, nous lui faisons connaître quelque chose, nous lui disons quelque chose. Et ce quelque chose, c'est qui au fond? Ben, c'est le moi-même, et ça, c'est le toi-même. C'est le même dans le toi et dans le moi qui est au fond une image de Dieu, d'un même Dieu, qui a un visage unique, mais avec des aspects infinis et différents, et chacun complémentaire et merveilleux. Alors, tantôt, c'était le mot incontournable que je...
Vous avez utilisé incontournable,
ben,
oui.
C'est ça. Bon, il m'est arrivé. C'était ce mot-là, probablement, que je voulais dire.
Ça me paraît assez clair.
Alors, transparence, c'est que quand on décide de vouloir s'aimer et de vouloir se réaliser et de vouloir se respecter, on recherche soi-même, on ne peut pas se manquer. On ne peut plus se manquer à ce moment-là quand on se recherche soi-même dans ces conditions-là. Et toutes les sciences vont nous être utiles, et aussi les religions. Mais en particulier, évidemment, l'Évangile est à privilégier. C'est évident, parce que l'Évangile, c'est la révélation la plus profonde, la plus parfaite de l'homme réalisé, qu'est le Christ.
Est-ce qu'on peut passer au point suivant sur la liste?
Oui.
La fidélité comprise et mieux vécue.
Oui, la fidélité. On ne peut plus, à ce moment-là, faire le mal de la même façon. On le fait toujours de plus en plus mal parce qu'on est de moins en moins frustré, parce que l'amour de soi nous permet d'aimer les autres et l'amour qu'un autre a pour nous-mêmes a permis en nous de libérer les forces authentiques d'amour. Alors, on cherche aussi à réaliser les autres tels qu'ils sont, à les accepter d'abord tels qu'ils sont, ensuite à les réaliser. Alors, à ce moment-là, se fait une connivence extraordinaire d'une amitié terrible et aussi d'un amour d'être capable de souffrir avec l'autre parce qu'il va y avoir des coups là-dedans. Là. À un moment donné, l'autre, des fois, n'est pas d'accord, il est mêlé, puis des fois, c'est nous autres aussi. Fait qu'il faut se mêler, il faut arriver à savoir c'est quoi tu veux dire, là. C'est quoi moi je veux dire, là. Et finalement, on arrive à connaître le même dans chacun et la différence du moi puis du toi. Et à ce moment-là, la communion s'installe parce qu'il y a un autre fruit qui s'appelle la communion.
Oui, parce que la fidélité, elle n'existe pas sans la communication.
La fidélité n'existe pas sans la communication, et la communication engendre la fidélité, et tout ça produit une communion. Et tout ça, ça va se faire par la prophétie, qui est un acte extraordinaire de cette béatitude. Alors, qu'est-ce que la prophétie? C'est aussi un fruit de cette béatitude.
D'accord.
La prophétie, c'est de dire une vérité que je ressens en moi, sur moi ou sur le plan de Dieu dans le monde, parce que cette vérité-là, elle est un acte même de Dieu en moi qui la produit. Cette vérité-là en moi me libère, m'harmonise, me rend en relation avec moi-même, dans une direction constructrice d'un moi véritable, dans un désir de communion avec un autre, et surtout de communication de cette vérité à un autre. Alors, à ce moment-là, j'essaie de m'en trouver un autre capable de m'écouter, qui est intéressé. C'est pas évident, ça. Mais au moment donné, si je le trouve, je dis ça. Puis ça produit chez lui des fruits similaires. Puis là, Dieu produit en lui une prophétie aussi, une autre vérité, qui produit en lui des effets différents, mais généralement aussi similaires à ceux des miens. Et là, lui aussi, ça lui donne le goût de m'adire. Et là, se dire des vérités comme ça sur soi, sur Dieu et sur la vie, c'est ça l'Église. L'Église, c'est cette capacité du mystère que chacun est de se réaliser en se disant dans cette découverte merveilleuse que Dieu réalise en nous, d'abord par un acte de vérité, c'est-à-dire de connaissance. Et cette connivence dans cette connaissance, où nous sommes signes les uns des autres et signes de lui, c'est l'Église vivante. Et c'est l'Esprit-Saint qui produit ça.
Monsieur Truchon, je pense que la liste des fruits, elle est considérablement longue, et c'est pas aujourd'hui qu'on va terminer tout ça. Je pense qu'on va devoir se retrouver la semaine prochaine, et puis on va poursuivre avec les fruits de la béatitude des cœurs purs.
Oui.
Mais avant de terminer ce soir, j'ai encore une petite citation pour vous.
Oui.
Vous savez que je les aime bien. Elle se rapporte un petit peu à l'opération Vérité dont nous avons bien parlé au sujet des cœurs purs. Elle nous dit « Méfiez-vous des demi-vérités, il pourrait s'agir de la mauvaise demi ».